Chers sœurs et frères en Christ, nous venons d'entendre comme premier texte ce soir cette grande et belle vision du prophète Isaïe. Un jour, les peuples de la terre se tourneront vers la montagne de l'Éternel, vers Jérusalem, pour reconnaître la loi de l'Éternel, vivre selon sa volonté, faire la paix entre eux. Ce jour-là se réalisera le shalom, comme on dit en hébreu, de Dieu, qui n'est pas seulement paix, mais justice. Le shalom de Dieu. Et cette grande vision du shalom de Dieu pour tous les peuples, comme vous le savez, va être... Isaïe était probablement le premier à le formuler ainsi. Va être repris par d'autres prophètes après lui, Amos, Osée, et résonne à travers toute la Bible. Je pense que vous le savez. Elle offre un horizon lointain vers lequel les hommes peuvent être en marche. Cette vision que nous ne trouvons pas en Chine, je dirais en Inde, mais dans ce petit pays d'Israël, chez quelques prophètes. Cette vision d'une humanité qui vivra un jour selon la justice et la paix. Et ça a mis en marche des hommes et femmes à travers l'histoire. Ça mène nous en marche aussi, je pense. Mais à côté de cela, il y a cet autre texte de Jésus, selon Matthieu 24, qu'on a entendu, qui, faut être clair, offre un scénario tout autre de l'avenir de l'humanité. Jésus dit carrément que ça se ressemblera le jour, la fin, quand le Seigneur revient pour l'humanité à l'époque de Noé. Ce temps de grande catastrophe qui engloutit toute la terre, seulement quelques-uns ont échappé. Jésus dit, mais oui, les hommes seront insouciants à ce moment-là, comme à l'époque de Noé. Ils ne voient rien venir. C'est ce scénario beaucoup plus sombre et pessimiste que nous entendons là, chez des collègues qui disent qu'il faut prêcher sur ces textes un peu apocalyptiques. Je prends d'autres textes. Mais ils sont bien dans la Bible. Ils sont bien là. Et aujourd'hui, posés à côté de cette autre vision du prophète Isaïe, cette vision du Christ, qui bien sûr évoque aussi ce retour du Christ. Et le texte où ces catastrophes sont éclairées par ce retour du Fils de l'homme pour toute l'humanité, mais quand même, c'est un scénario plus catastrophique, catastrophiste, à côté de ce scénario messianique que nous entendons, une vision beaucoup plus positive et confiante, celle du prophète, que nous retrouverons sur tant de pages de la Bible. Mais ces autres textes plus aussi du genre apocalyptique, qui parlent d'un temps de catastrophe, sont aussi dans le texte, la Bible, et même comme ce soir, dans la bouche de Jésus. Je pense que ces deux visions résonnent en nous. Cette vision d'espérance pour l'humanité, du shalom, pour les hommes, cela résonne dans nos cœurs et nous y adhérons. Et cette autre vision, plus difficile, mais elle résonne aussi en nous, dans ce 21e siècle où les scénarios de l'avenir sont plutôt des scénarios pessimistes, inquiétants. Et nous savons bien les raisons pourquoi. Autre, la question du climat qui est en train de se dérégler, le réchauffement climatique et tout ce que ça peut avoir comme conséquence pour l'humanité, des déplacements de peuples et autres. Dans ces textes apocalyptiques, souvent d'ailleurs, on évoque une nature ébranlée. Ici, c'est l'inondation de la mer. Ailleurs, c'est le ciel obscurci. Mais sans faire trop vite un collage entre ces textes, je pense qu'il faut être très prudent là-dessus et la réalité aujourd'hui. Je sais que ceux qui lisent exactement des signes de l'avenir dans certains textes apocalyptiques, mais il y a des villes dans le monde, comme New Delhi ces dernières semaines, où la pollution était tant qu'il y avait un grand brouillard pendant des semaines. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est terminé, hein, mais comme en certaines villes de Chine. Et vous le savez. Je suis convaincu, bien que ce sont des textes difficiles, qu'il faut lire de certaines manières ces textes sur la fin du monde, et aussi des textes apocalyptiques. Il y a tout un livre, le livre de l'Apocalypse, hein, dans la Bible, avec lequel termine le Nouveau Testament, mais qui résonne autrement pour nous aujourd'hui. Bien qu'on est conscient que ce sont des textes très symboliques, et quand on voit ce genre apocalyptique dans la Bible, est plein de symboles, de chiffres, dans le livre d'Apocalyptique, on joue avec plein de symboles et de chiffres. Mais il y a un message quand même qui dit l'humanité et son histoire n'aboutit pas forcément sur le royaume de Dieu sur terre. Il y a aussi un autre scénario possible dont les textes bibliques nous parlent. Et j'avoue que je le trouve un peu difficile dans ce temps de l'Avent où nous avons besoin dans un monde dur de certaines douceurs dans le texte. Et j'ai des collègues qui ont choisi des textes sur Jean-Baptiste ou Élisabeth Zacharie avec cette douceur. Mais ces textes-là, c'est vrai qu'ils résistent quelque part pour nous, parce qu'elles résonnent en nous aujourd'hui, de manière peut-être nouvelle, mais aussi réelle, je pense. Il n'est pas garanti que notre rêve de progrès occidental soit le vrai issu de l'histoire humaine. Elle peut évoluer aussi autrement, bien qu'elle s'évoluera. J'étais frappé comment encore, peut-être votre génération qui a vécu les années 60-70, mes parents vivaient dans un scénario optimiste, n'est-ce pas, très optimiste de l'avenir du temps. C'était les années 60, la reconstruction après la guerre. C'était les 30 années glorieuses, mais on parlait du progrès et du progrès. Et voilà, exporter ce progrès vers les autres peuples sur la terre, pour que tout le monde rejoigne ce progrès occidental, n'est-ce pas? Dans mon enfance, on a vécu la fin de la guerre froide, la chute du mur. Et là aussi, on avait un certain optimisme que les peuples allaient passer à autre chose, une paix mondiale que la guerre froide, qui a vu des années terribles, et vous le savez, ici au Vietnam et ailleurs. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cet optimisme devant l'histoire de l'homme. Il y a ce texte qu'il faut peut-être réapprendre à lire dans la Bible autrement pour chercher l'espérance de Dieu pour nous aujourd'hui, mais que nous devons chercher dans le monde concret qui est le nôtre. Quand le texte dit « Soyez vigilants, réveillés, restez réveillés », comme Paul le dit, c'est-à-dire que nous voulons aussi vivre en tant que chrétiens ce temps de Noël, pour chercher une vraie espérance pour le vrai monde dans lequel nous vivons. Et pas se faire du bien avec ce temps qui nous fait du bien à travers des choses qui ne sont pas ancrées dans la réalité de notre monde et de nos vies. C'est très parlant que l'Église, depuis toujours, nous propose de méditer ce texte sur la fin du temps, le premier dimanche du temps de l'Avent. C'est dit, mais l'avenir aussi des hommes, tel que les différents textes de la Bible en parlent, on ne peut que le voir à partir de ce qui est passé dans le passé il y a 2000 ans. L'avenir, le chrétien, ne peut que l'apprendre et marcher vers l'avenir à partir de ce que nous avons reçu il y a 2000 ans quand Dieu a visité ce monde en Jésus-Christ, en ouvrant des chemins nouveaux pour les hommes. Le chrétien donc fait ce retour vers le passé pour trouver une espérance pour l'avenir, vers le Christ. Ce qui frappe quand on dit cela, la vie du Christ lui-même, les évangiles le disent très clairement, dès le début, Jésus vivait lui-même avec une notion que le temps pour l'humanité allait se raccourcir. Il prêche dès le début que le royaume de Dieu est proche. On a beaucoup dans notre histoire aussi occidentale, effacé un petit peu cette notion de l'histoire de Jésus. Mais Jésus vit clairement dans une notion que le temps s'accélère et que le temps se condense et que face à cela, Dieu fait un appel aux hommes à travers. Mais Jésus vit clairement dans cette perspective que le temps va se raccourcir. Le royaume de Dieu est proche, dit Jésus. Peut-être sur l'échelle vraiment du temps sur la planète, où l'humanité vit depuis des millions d'années, il y a des milliards d'années de vie sur Terre, nous sommes quelque part, peut-être dans la fin des temps, pris au large. Jésus apparemment le vit comme ça, quand il dit « le royaume de Dieu est proche ». Mais cela, pour Jésus, veut dire qu'il se tourne vers Dieu et son royaume entièrement. Et pour Jésus, la direction vers laquelle il marche et l'avenir vers lequel il va est d'abord Dieu et son royaume. Pour Jésus, son avenir est Dieu. Et le royaume que Dieu, c'est-à-dire concrètement, si ce monde fraternel, si Dieu est Père, nous sommes frères et sœurs. Et Jésus commence dans cette perspective qu'il marche vers Dieu et son royaume. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout vous serait donné. L'avenir pour Jésus est Dieu lui-même et son royaume. Et Jésus agit là où il est, en fonction de cela. Il commence à créer autour de lui ce monde plus fraternel, plus solidaire, parce que le temps se raccourcit et il marche vers le royaume de Dieu. Vous savez peut-être que la béatitude qu'on a lue dans cette version adaptée tout à l'heure, mais qui est un peu le cœur de ce message qu'il dit au tout début de l'évangile de Matthieu, n'est-ce pas ? Parce que Jésus vient apporter une bonne nouvelle qui est d'abord annoncée aux pauvres, selon le prophète Isaïe. Mais cette bonne nouvelle annoncée aux pauvres sont la béatitude. Dans cette béatitude, on dit 8 fois « heureux les hommes », cette foule qu'il voit, « heureux les artisans de paix, heureux ceux qui cherchent la justice, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui ont compassion, heureux les pauvres, ou les pauvres en esprit, c'est-à-dire les humbles. » Et une traduction étonnante que certains parmi vous connaissent, de Cherokee, André Cherokee, qui était un juif qui était maire de Jérusalem, un moment, qui a traduit en français toute la Bible en tant que juif, tout le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, André Cherokee. Cherokee. Mal prononcé peut-être. Certains connaissent cette traduction assez étonnante d'André Cherokee parce qu'il a tout traduit à partir même de la parole de Jésus. Il a dit, mais Jésus parlait araméen et tout ce monde était hébreu, on va dire, et nous n'avons que du grec dans le Nouveau Testament. Il a cherché chaque fois derrière le texte quel a pu être l'araméen, l'hébreu de Jésus. Ça donne des traductions étonnantes. Et une des choses les plus étonnantes concerne la béatitude. Et chaque fois, il traduit le mot « heureux » qui revient 8 fois, par « en marche ».« En marche ». Sans faire d'allusion politique, parce que Jésus ne le faisait pas. Mais c'est quand même étonnant que pour Jésus qui dit « heureux hein, ceux qui parce que le royaume de Dieu », que ce même mot, probablement que Jésus dit en araméen, veut mettre en marche des hommes et femmes, faire cet avenir de Dieu. Quelque part, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour le chrétien, l'avenir est toujours de se mettre en marche, faire Dieu et le monde que Dieu veut créer parmi nous. quoi qu'il va arriver. Et la Bible nous donne des scénarios de l'avenir comme une sorte d'hésitation entre des scénarios du shalom, ce qui nous met en route. D'ailleurs, ce texte parle de ce peuple qui se met en route vers Jérusalem. Et Jésus, ce qu'il nous propose, c'est un chemin. La foi chrétienne, c'est cheminer avec Jésus, faire cet avenir de Dieu. Suis-moi, je suis le chemin. Rien chez Jésus de statique dans tout cela. La vie chrétienne, c'est cheminer avec Jésus. C'est pourquoi il faut toujours s'interroger soi-même. Est-ce que je suis chrétien qui est bien dans une communauté ou qui a certaines convictions, ou est-ce que je marche avec Jésus, avec lui? Ce qu'il dit, suis-moi, à chacun de nous. Être chrétien, c'est cheminer avec Jésus et être en route vers Dieu. Jésus est en route vers Dieu et son avenir, son royaume. Et le chrétien sera, quelle que soit la suite du 21e siècle, le monde dans lequel vivront nos enfants et nos petits-enfants, on peut évoquer beaucoup de choses, être réveillé comme chrétien dans ce monde-là demain, c'est d'être en marche avec Jésus et créer, vivre ses paroles de béatitude, être artisan de paix, chercher la justice, aussi dans le monde de demain, quel qu'il sera. J'aime beaucoup une parole d'un poète anglais, je crois que c'était William Blake, mais je vais en plus sûr, et qui dit ceci: l'essentiel dans la vie, ce n'est pas l'endroit où tu es, mais la direction vers laquelle tu es en route. C'est fort, en quelque sorte. Parce qu'on peut être dans des endroits très différents, privilégiés, au moins privilégiés. Il dit, l'essentiel de ta vie, c'est moins l'endroit où tu es aujourd'hui, mais la direction dans laquelle tu es en route. Comme chrétien, on ajoutera avec tes frères et sœurs ensemble, parce que nous sommes ensemble en route pour nous encourager. La vie chrétienne est d'abord aussi une vie communautaire, et Jésus l'a voulu comme ça. Nous ne sommes pas seuls. Quand il envoie ses disciples à annoncer, il les envoie deux à deux. Ils sont au moins deux ou quelques-uns. On est ensemble en route avec Jésus. Heureux l'homme qui se met en marche avec Jésus aujourd'hui, demain, après-demain encore. Quel que sera l'avenir des hommes. Amen. Chantons donc toujours en Alléluia, le 31-10 le 31-10, Ô viens Seigneur, les quatre couplets, on va se lever pour chanter ce cantique. 31-10. Ô viens Seigneur, ne tarde plus, viens dissiper l'obscurité, où nous devons toujours marcher, remplis nos yeux de ton éclat, brillant soleil très pur matin, nous aimerions te contempler. Jamais au